vous disais la dernière fois, il semble bien qu'Aristote soit le premier à bien discerner la différence entre la substance découverte comme principe et source de toutes les déterminations de l'être, de ce qui est, et la qualité. Et que chez Platon, c'est beaucoup moins précis. Il semble même, je crois, que pour Platon, qualité et ousia, substance, soit très proche. Et ceci se comprend étant donné que pour Platon, il n'y a pas de distinction entre l'intelligibilité de ce qui est et l'être lui-même, autrement dit la propriété de ce qui est, son intelligibilité et ce qu'il est ne sont pas distinctes. C'est propre de l'idéalisme de Platon. Par le fait même, Platon ne peut pas distinguer ce qui est premier dans l'ordre génétique et ce qui est premier dans l'ordre de perfection. Or, on le verra, la qualité est première dans l'ordre génétique. Le propre de la qualité, c'est de manifester. C'est ce qu'on connaît en premier lieu, la qualité. À la différence de la quantité et à la différence de la substance. On a vu que pour découvrir la substance, il fallait l'induction. Et que ce n'est pas si commode que ça. Vous tâtiez le pouls pour savoir si vraiment vous aviez découvert la substance. C'est une source cachée, la substance. Et ça ne se découvre que par l'induction. L'induction, c'est remonter du visible à l'invisible. Mais notre substance est notre âme. Mais vous ne la touchez pas, votre âme. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui nient l'existence de l'âme. Et qui ramènent tout à ce qui est visible. L'induction, c'est le passage du visible à l'invisible. Le visible n'étant pas ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'être. Platon a bien saisi ça d'une certaine manière, puisque dans la caverne, le mythe de la caverne, il montre bien que les hommes demeurent dans les apparences et que c'est difficile de leur faire comprendre qu'il y a un au-delà des apparences, l'âme. Donc il distingue bien le point de vue du visible et l'invisible. Mais il semble bien qu'au niveau de l'être, on ne peut pas dire qu'il y ait une distinction très nette entre substance et qualité. Il est plus attentif à la qualité qu'à la substance. C'est normal, hein, comme un artiste. Un artiste est plus sensible à la qualité qu'à la substance. Toujours. Puisque la qualité, c'est ce qui se manifeste. C'est ce qui se voit tout de suite. Je crois que le propre de l'artiste, c'est de mettre en pleine lumière ce qu'est la qualité. Et de le manifester. La qualité, c'est ce qui est connu immédiatement. Au moins les qualités sensibles. On fera la distinction, on va le voir tout de suite. C'est ce qui est connu immédiatement. Donc, ce qui est toujours connu en premier lieu. La qualité d'une fleur. La qualité du bois. Ce que vous touchez. La qualité de l'eau. Elle est chaude ou elle est froide. C'est une qualité, ça. C'est les qualités sensibles. C'est les premières choses qu'on connaît. Donc, génétiquement, dans l'ordre génétique, la qualité est première. perfection, ce n'est pas la qualité qui est la détermination fondamentale et parfaite de ce qui est et la substance. Il faut distinguer très nettement l'ordre génétique et l'ordre de perfection pour bien discerner la différence de la qualité et de la substance. Pensez à votre âme. Pas si commode que ça. De découvrir ce que c'est que notre âme. Elle est invisible, notre âme. Tandis que la qualité de notre visage, c'est une qualité. La figura, c'est une qualité. Vous la voyez tout de suite. Dès que vous vous regardez dans la glace. Et vous êtes le plus admirable de tous les hommes de la Terre. Ça se voit tout de suite, ça. Pour vous, peut-être pas pour les autres, mais pour vous. Alors, Aristote, je crois, est le premier. Étant donné que le mot, on a vu la dernière fois, hein, que le mot païétès apparaissait dans la philosophie grecque à partir de Platon. Le mot qualité. C'est toujours intéressant, c'est un signe. C'est pas plus. On peut très bien avoir découvert ce que c'est que la qualité avant et ne pas l'avoir nommée. Ordinairement, au point de départ, on ne sait pas très bien. Mais dès qu'on la connaît bien, on la nomme. Et le mot poiétès, on l'a vu la dernière fois, apparaît pour la première fois dans la philosophie avec Platon. Platon remarque arrêter exis. De la vertu existe, une qualité stable existe, et que tout cela c'est qualité poiétès. Je voudrais avec vous, je vais aller rapidement, mais c'est quand même nécessaire pour être sûr que vous l'ayez regardé. Je vous avais dit au début de l'année qu'il fallait avoir lu les catégories d'Aristote. Quand vous regardez dans les catégories d'Aristote, un petit ouvrage extrêmement intéressant, pas commode à bien comprendre, où Aristote essaie de préciser les diverses modalités de ce qui est par rapport à l'homme. Et alors quand on arrive à la catégorie qualité, Aristote montre tout de suite que la qualité se divise en diverses qualités. Alors je vous disais que ce qui était particulièrement intéressant pour nous, c'est que la qualité va nous faire comprendre tout de suite que notre connaissance intellectuelle implique ce caractère particulier de pouvoir discerner dans la diversité une certaine unité. Ce qui est le propre de la connaissance analogique. Donc la qualité est le lieu où mon intelligence va comprendre qu'on ne peut pas mettre tout, qu'on ne peut pas regarder tout d'une manière univoque. Et qu'il y a dans notre connaissance une certaine diversité dans l'unité. Et c'est la qualité qui nous fait le mieux comprendre cela. Donc, après avoir précisé qu'est-ce que c'est que la qualité et comment on peut définir la qualité par celui qui est qualifié, l'abstrait et le concret. Cet homme est vertueux. Il est qualifié. La vertu qualifie notre attitude morale. Quelqu'un qui n'a pas de vertu n'est pas qualifié moralement. Et très vite, il se laisse glisser. Donc, après avoir précisé que la qualité, j'appelle qualité poiétès, ce en vertu de quoi on est dit tel poion. Donc, l'aspect concret et l'aspect abstrait. C'est aussi très intéressant de voir que c'est à l'égard de la qualité qu'on précise ces deux modalités de connaissance, blanc, blancheur. Posez-vous la question, pourquoi nous avons le besoin de regarder quelque chose d'une manière concrète et d'une manière abstraite? C'est très curieux. Blanc, blancheur, qualité, celui qui est tel, qualifié, un être qualifié, et puis la qualité. Et vous voyez, c'est très curieux que c'est à l'égard de la qualité, vous allez comprendre ça, c'est pas à l'égard de la quantité. Pourquoi? On va essayer de comprendre progressivement, en comprenant ce que c'est que la qualité. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la qualité est pour notre intelligence humaine ce qui va tout de suite mettre en lumière certaines manières de connaître. On connaît d'une manière concrète le blanc du mur, une figure blanche, et puis la blancheur. Ce que les modernes appellent thématiser, c'est un nouveau mot. Aristote ne l'emploie pas. Je ne sais pas si ça vous éclaire beaucoup, mais on thématise le blanc quand on fait la blancheur. C'est-à-dire qu'on veut regarder le blanc pour lui-même. C'est ça, thématiser. Indépendamment des autres. Il faut bien savoir ce que c'est que le blanc. C'est pas suffisant de dire le blanc du mur. C'est de regarder le blanc pour lui-même. Pour regarder le blanc pour lui-même, vous l'abstrayez. Donc, vous le mettez face à vous et vous le regardez pour lui-même. Voyez, n'oubliez pas, c'est pour répondre à Platon. Platon parle des formes en soi. Aristote n'accepte pas les formes en soi. Alors, Aristote montre tout simplement que c'est un procédé d'abstraction. La blancheur, c'est la forme en soi. C'est le blanc en soi. Vous n'avez jamais vu le blanc en soi, sauf en rêve. Et c'est un spectre. Ça vous a fait peur. Ou bien là, on voit ça dans les réclames. C'est pas le blanc en soi. Ça n'existe pas. Ça n'existe que dans votre intelligence, le blanc en soi. Pour Platon, le blanc en soi, c'était la forme en soi. Et c'était la forme parfaite qui existait. Vous voyez, la réponse d'Aristote à Platon, qu'est-ce que c'est que la forme en soi? La forme en soi, c'est le procédé de mon intelligence qui veut regarder la qualité pour elle-même. Alors à l'abstrait, il s'est fait blanc, blancheur. Vous voyez, cette réponse, elle est très intéressante, Saint Thomas reprendra exactement la même chose qu'Aristote, en disant que Platon et les néoplatoniciens, parce que ça va continuer avec les néoplatoniciens, et ça continue jusqu'à nos jours, hein. La phénoménologie, c'est un procédé néoplatonicien. Tout simplement. C'est un procédé très, très, très connaturel à notre intelligence, mais ce n'est pas juste. Parce qu'on réifie notre manière abstraite de connaître. À la place de reconnaître que c'est une manière abstraite de connaître, on considère comme une réalité. Donc, l'erreur du platonisme pour Aristote et pour saint Thomas, il reprend exactement la même chose qu'Aristote. Là, il n'invente rien. Et c'est très important. Parce qu'on peut dire que les deux grandes formes de notre intelligence, c'est le platonisme et l'aristotélisme. Pratiquement. Les dérivés de Platon, les dérivés de la pensée aristotélicienne. Et les deux manières différentes, c'est que d'un côté, on essaie de comprendre le besoin d'abstraire, et que de l'autre côté, on ne voit pas l'abstraction comme un procédé de l'intelligence, mais comme une réalité. On projette. Oui, quand on dit qu'on projette sur quelqu'un, les a priori qu'on a en soi, ça c'est du platonisme. On projette sur quelqu'un. Vous êtes de mauvaise humeur ce matin. Ben, ça peut arriver. Vendredi, mauvaise humeur. Vous projetez sur tout le monde. C'est curieux, tout le monde est de mauvaise humeur aujourd'hui. Parce que vous, vous êtes de mauvaise humeur. C'est une projection. Vous voyez trouble, tout le monde voit trouble. Alors que vous êtes de bonne humeur, tout le monde est de bonne humeur. Vous projetez. Et c'est très curieux qu'on projette plus facilement les mauvaises humeurs que les bonnes humeurs. Je ne sais pas pourquoi, ça, psychologiquement. C'est très curieux. Les mauvaises humeurs, ça se projette. Quand vous êtes de mauvaise humeur, tout le monde est de mauvaise humeur. Quand vous êtes de bonne humeur, c'est rare que vous dites que tout le monde est de bonne humeur. C'est curieux, parce que tout le monde devrait être de bonne humeur, si vous êtes de bonne humeur. Il y a là quelque chose de très curieux. Hein. Prima de la négation, hein, sur l'affirmation. Vous comprenez que l'affirmation, c'est positive, c'est réaliste. La négation, un être de raison, c'est subjectif. C'est pour ça que vous projetez beaucoup plus l'aspect négatif que l'aspect positif. Alors, regardons dans les catégories ce que nous dit Aristote. Sans analyser ce legein, ce dire, exprimant la qualité, le philosophe ajoute aussitôt : la qualité est au nombre de ces termes qui se prennent en plusieurs sens pour la cause. C'est très intéressant. Tout de suite. Cette affirmation est très significative. La qualité implique immédiatement une diversité de significations. Elle est toujours qualité. Elle ne peut s'abstraire de cette diversité, car elle est en elle-même quelque chose d'ultime et de premier. La qualité en elle-même ne peut plus être formalisée, mais elle se présente à nous. C'est un fait. Sous une grande diversité. Aristote va donc exposer les principales significations de la qualité. Et je crois que ça reste vrai, même pour nous. Essayez de changer ça, vous allez voir, c'est pas commode. Première espèce de qualité comprend l'exis et la diathésis. Donc, l'exis, nous avons déjà vu l'exis, ce que c'est que l'exis. État et traduisez habitus. L'habitus, c'est exis en grec. Et la diathésis, c'est la disposition. Voilà les deux premières qualités. Habitus et disposition. Vous retrouverez ça tout le temps dans saint Thomas. Et ça vient d'Aristote. Alors, l'exis, donc l'habitus, a plus de durée et de stabilité que la diathésis. Le propre de l'habitus, c'est difficile mobilis. C'est quelque chose qui, une fois que c'est acquis, ça demeure. La vertu est un habitus. Une fois que vous avez acquis la vertu, ça demeure. Alors, est-ce que le vice est aussi un habitus? Saint Thomas, quand il ne fait pas grande attention, ça peut arriver de temps en temps, il dit que le vice est un habitus. Ce qui n'est pas tout à fait juste. Le vice est une habitude. On confond très facilement l'habitude, vous savez, l'ornière, on tombe dedans tous les matins. Il y a des gens qui, tous les matins, se lèvent de mauvaise humeur. Ils ont du retard par rapport à la joie. qui sont de mauvaise humeur par nature. Impossible de les faire rire. Impossible, ils rient jamais. On a beau les piquer au talon, ils ne rient pas. Ils sont toujours de mauvaise humeur. Alors ça devient une habitude. L'habitude n'est pas l'habitus. C'est très difficile à traduire, habitus. C'est une qualité stable. Alors vous allez me dire, l'habitude, c'est une qualité stable. Non. L'habitude, c'est une ornière. Alors, quand il y a une ornière, ça dure, évidemment. Mais la différence, c'est que l'habitus s'appuie sur un principe, tandis que l'habitude ne s'appuie pas sur un principe. L'habitude est un comportement. Un comportement habituel. Un comportement qui s'est enraciné en nous. Une mauvaise humeur. Ça peut dépendre de notre jeunesse. On avait des parents qui étaient très tristes. Qui n'ont jamais. Une mère ne nous a jamais souri. Ça peut arriver. Normalement, c'est la mère qui apprend à l'enfant à rire. Et à sourire. Et si vous avez une mère extrêmement sévère et de mauvaise humeur, oui, vous n'avez commencé à rire qu'avec votre père. Alors c'était beaucoup plus tard. C'était beaucoup plus tard. Et vous êtes resté avec un tempérament triste. Et vous avez beaucoup de peine d'en sortir de cette ornière. Parce que c'est une ornière. Normalement, on doit être de bonne humeur. Est-ce que la bonne humeur est un habitus? Non. Disposition. Est-ce que la joie est un habitus? Non. C'est une conséquence de l'amour. C'est très très intéressant de savoir, c'est ça. Ça joue énormément au point de vue de l'éducation. L'éducation consiste à acquérir des habitus. La véritable éducation. Et donc il faut savoir où se trouvent les dispositions et où se trouvent les habitus. Un bon éducateur, c'est ça. Parce qu'il veut qualifier le petit bonhomme qui pousse. Il faut le qualifier. Si vous lui donnez pas des qualités, toute sa vie, il restera sans qualité. Alors c'est terne. Très très important cette distinction d'Aristote entre exis et diathesis. Donc l'exis, l'habitus, une qualité qui dure. L'exis a plus de durée, de stabilité que la disposition. Par exemple, les sciences, les vertus sont des habitus. Elles sont stables, difficiles à mouvoir. Alors retenez l'expression parce qu'elle est classique. L'habitus est difficile à mouvoir, difficile et mobilis. Alors voyez, pas comment quelquefois de discerner l'entêtement et l'habitus. Des ânes battés, hein, c'est difficile à faire bouger. Et il y a des gens qui sont entêtés. Alors l'entêtement c'est quoi? C'est une disposition. Une disposition tenace. Mais ce n'est pas un habitus. Qualité au sens fort, nous le verrons, c'est l'habitus, c'est la qualité des qualités. Donc c'est vraiment là où je saisis ce que c'est que la qualité. Quand j'acquiers une vertu, un être qui a des vertus est qualifié. Je peux compter dessus. Il me donne sa parole. Je sais ce qu'il dit, il le fera. C'est vrai. Tandis qu'au contraire, un être qui n'est pas qualifié, ça change. Il peut y avoir des dispositions qui durent, des entêtements. Et on a ici l'opinion. L'opinion est une disposition. La connaissance, la science est un habitus. Là, vous pouvez comprendre un peu les deux. Mais vous avez des opinions de gens entêtés, il n'y a pas moyen de les faire changer. Et ce n'est qu'une opinion. Vous avez des opinions politiques, par exemple, qui sont d'une stabilité imprésemblable. Vous ne ferez jamais changer quelqu'un d'opinion partagera de père en fils. C'est les opinions familiales. On a toujours été comme ça. On a toujours voté comme ça. Mais et c'est vrai, c'est quelque chose ce qui souvent touche alors l'affectivité. Mais en soi, ça ne reste qu'une opinion. La disposition est une qualité qui peut facilement être mue et rapidement modifiée. Normalement, hein. Il en est ainsi de la chaleur, du refroidissement, de la santé. Si l'on peut dire que les habitus sont des dispositions, on ne veut pas dire l'inverse. Alors ça aussi, c'est très curieux. Oui, je peux dire que l'habitus est une disposition. C'est une disposition stable. Et je ne dirai jamais que la disposition est un habitus non stable. Puisque l'habitus par lui-même est stable. Ce serait contradictoire. Donc, génétiquement, au plan de l'acquisition, on acquiert d'abord des dispositions. Quand vous essayez de comprendre comment on acquiert la vertu d'obéissance, hein, c'est particulièrement limpide quand il s'agit d'acquérir la vertu d'obéissance. Vous faites un acte d'obéissance. Est-ce que vous avez acquis la vertu d'obéissance? Non. Ça a acquis une disposition. Mais le lendemain, vous faites un acte de désobéissance. Alors la vertu s'efface, la disposition s'efface pour tomber dans l'ornière. J'aime mon indépendance. Moi, obéir, jamais. J'aime mon indépendance. Oui, alors votre petite disposition, vous avez fait un acte héroïque, merveilleux d'obéir. Ça s'efface. Si, au contraire, au bout d'une année de noviciat, vous tâtez le pouls. Oui, je suis obéissant, mais non, j'ai la vertu d'obéissance. Alors, c'est joyeux d'obéir. Parce que c'est comme ça que vous discernez si vous avez les vertus d'obéissance. Si vous allez au-devant, vous faire couper la tête. Si vous allez au-devant, vous aimez d'obéir. Quand on a un habitus, on aime de l'exercer. Parce que l'habitus est comme une nouvelle nature. C'est ce que dira saint Thomas. L'habitus est comme une nouvelle nature. Le pli est tellement profond que c'est une nouvelle nature. Voyez, on va voir, c'est très curieux ce que c'est que l'habitus. C'est très très curieux. Prenez l'exemple de la greffe. Petit à petit, tout passe par la greffe. Le vieux sauvageon. L'habitus s'enracine, la science, s'enracine dans notre intelligence. Notre intelligence est une puissance, une capacité d'opérer. Mais elle est indéterminée. Elle a besoin d'être déterminée par l'habitus. Et quand l'habitus est acquis, la puissance, alors, agit pleinement et totalement grâce à cet habitus. C'est pour ça qu'on peut comparer un habitus acquis à une sorte de greffe qui petit à petit prend toute la sève. Au début, c'était qu'une disposition. Puis petit à petit, ça prend tout. Et tout passe par là. On va voir ça progressivement. Hein. Simplement pour comprendre la différence entre la disposition et l'habitus, c'est que la disposition est normalement instable. Et l'habitus a une stabilité. Posséder des habitus, dit Aristote, c'est se trouver dans une certaine disposition à leur égard. Tandis qu'avoir des dispositions, ce n'est pas posséder par le même un habitus correspondant. Le signe, justement, de la perfection de l'habitus, c'est que c'est quelque chose qui est très enraciné en nous. La disposition disparaît. Deuxième espèce de qualité. Un autre genre de qualité est celui selon lequel on parle de bon lutteur, ou de bon coureur, de bon sportif. Autrement dit, Ce genre de qualité concerne l'aptitude ou l'inaptitude naturelle à accomplir facilement quelque chose ou à ne pâtir en rien. Par exemple, le dur est tel qu'il possède une aptitude naturelle à ne pas être facilement divisé. Le mou, au contraire, l'est facilement. Un beurre mou, un beurre dur, quand il est gelé. Voyez bien, l'un est facile, ça s'enfonce comme dans du beurre. Alors qu'au contraire, quand c'est dur, on casserait son couteau. Parce que ça peut arriver quelquefois. Le couteau est moins solide que ce qu'on veut couper. Il y a des biftecs qui sont très très durs. C'est dur. Oui, le mou et le dur sont des qualités. C'est des qualités très très saines. Il comprend tout de suite. Qu'est-ce que c'est que le mou? Qu'est-ce que c'est que la qualité d'être mou? Quelquefois c'est une qualité et quelquefois c'est pas une qualité. Je me souviens, c'était le dentiste de Fribourg qui n'était pas fribourgeois. Il était jurassien. Il faut comprendre la différence entre le Jura et le Fribourg. Première fois que je vais chez lui, il me regarde et me dit: vous n'êtes pas fribourgeois? Je dis non. Ah, ça se voit tout de suite. Ah, c'est dur. Tandis que chez les fribourgeois, ça s'enfonce comme dans du beurre. On appelait ça la mollasse. La pierre de bourgeois, c'était la mollasse. Mais vous comprenez tout de suite la différence entre ce qui est mou. Normalement, une qualité d'une dent, c'est d'être dur. Quand vous avez des dents qui s'enfoncent comme dans du beurre, ça va pas du tout. Voyez donc, l'aptitude, l'inaptitude, c'est une qualité ou ça peut être un défaut. Ça dépend pour quelques, certains. Mais c'est des qualités quand même. C'est ce qui se manifeste. L'être se manifeste à travers quelque chose de mou. L'argile trempée d'eau, c'est mou. Ça s'enfonce. Comme dans du beurre. Au contraire, si vous avez une roche solide, du granit, ça tient. Ça tient. Oh, au contraire, quand c'est plus du granit et que ça s'effeuille, comme de l'ardoise, on dit, c'est dangereux. Donc, il faut bien comprendre le dur et le mou. Troisième espèce de qualité. La qualité formée par le point de vue des qualités passibiles ou affectives. Pathetikai poietetes. Vous voyez, c'est le terme d'Aristote très joli. Pathetikai. Une qualité passible. Pathetikai. Et les passions ou affections, les pâtés, les affections, les passions sont des qualités. Par exemple, la douceur, l'amertume, l'âcreté. Ces qualités sont les plus pures. Que ce soit l'un des qualités, c'est clair, car les êtres qui les possèdent sont dits de telles qualités en raison de leur présence en eux. C'est vrai, c'est les qualités les plus manifestes. La passion est une qualité. Oui, Aristote ne fait qu'énumérer. Hein. Il énumère la diversité de ses passions, de ses qualités. Il ne fait ça que pour la qualité. Ces qualités sont dites passibles, passibiles, pathetikai, parce qu'elles sont capables de produire dans les sensations des modifications. Autrement dit, elle spécifie immédiatement les sensations, la douceur et ce qui qualifie le goût. La chaleur qualifie le toucher, tandis que la pâleur, la rougeur sont dites qualités passibles ou affectives du fait qu'elles sont le résultat, l'effet d'une modification provenant d'une aptitude naturelle, du tempérament. Si ces modifications sont purement passagères, on les appelle des passions ou affections. Il y a quelqu'un qui rougit, vous savez, il y a des personnes qui rougissent très facilement. Il suffit qu'on les regarde, qu'on dise, leur disons, écarlate. Et plus on les dit qu'elles sont écarlates, plus si elles sont écarlates. Il y a des gens qui ne rougissent jamais. Des qualités qui passent rapidement. Est-ce que c'est une qualité ou est-ce que c'est une fragilité? Mais la fragilité est une qualité. Être fragile. C'est une qualité parce que on est comme une petite balance du pharmacien, tu sais. C'est vrai. Être très sensible. Est-ce que c'est un défaut ou une qualité? C'est une qualité. Parce qu'il y en a qui sont comme les grosses balances. Il faut 100 kilos pour que ça commence à bouger. Et puis il y a des petites balances du pharmacien. Il suffit d'une plume. Laquelle aimait mieux vous? La grosse balance. Oh, c'est stable. Ça bouge pas. Ou la petite. Et c'est vrai, on voit très bien là les qualités différentes des êtres qui subissent très vite, très facilement, à moindre petit écart. Donc, ces qualités sont dites passives, ça qui est intéressant, c'est qu'elles sont capables de modifier nos sensations. Elles sont relatives à nos sensations. Si ces modifications sont purement passagères, on les appelle des passions ou affections. Et non des qualités passibles ou affectives. C'est très curieux que vous retrouvez à ce niveau-là ce que vous avez vu par rapport à l'exis et à la diélexis. Et la diathésis. La disposition, normalement, c'est passager. L'habitus, la qualité habitus, c'est normalement quelque chose qui dure. Et vous avez là, au niveau des qualités sensibles, la même chose. Alors, les qualités qui durent et les qualités qui ne durent pas. La question du temps joue directement dans les qualités. Enfin, quatrième genre de qualité, il reste un quatrième genre de qualité, comprend la figura, schéma, la figure. Mais la figure, faisons attention, il faudrait plutôt dire la physionomie d'un être. La démarche. Il y a des personnes qui marchent lourdement, allègrement, des petits pas, des grands pas. Vous avez tout de suite, et voyez tout de suite, à l'horizon, la manière dont quelqu'un... Ah, c'est celui-là. Comme disait une fois un père dominicain par rapport à un autre, on dirait qu'il traîne toujours un chaland. Quand il marche, ça c'est l'or, un chaland, il traîne un chaland. Là, il traîne tout ça. Et l'attitude de celui qui traîne le chalon, une démarche très particulière. Sur les vagues successives, tandis qu'autrement, il y a une démarche aérienne. Tout à fait autre chose. Et bien, ça, c'est la figura. Et c'est la physionomie. Il y a des. C'est curieux. Hein. Et alors, la quatrième figure, c'est la figura, la figure, schéma, et la forme, morphée, celle qui appartient à chacun. Et de plus, l'aspect de la courbure, de ce qui est droit, la droiture, et tout ce qui lui est semblable. Un être, en effet, est qualifié d'après toutes ses dimensions. Une chose n'est-elle pas dite avoir telle qualité parce qu'elle est triangulaire? Le triangle est une figure, c'est une qualité. Donc vous voyez, cette chose très curieuse, et c'est intéressant parce que là on est directement en face de l'expérience. Réfléchissez sur ces quatre formes de qualité. Tant au rare, au dense, au rugueux, au poli, semble signifier une chose de telle qualité. Mais en réalité, ces déterminations expriment plutôt la position. Alors on va distinguer, pour Aristote, la diathésis et la thésis, qui est la position. Et la position n'est pas une qualité. Vous aurez le prédicament. Voyez, être assis, est-ce une qualité? Est-ce que ça vous qualifie d'être assis? bout d'un certain temps, ça lui donne une disposition intérieure d'être assis. Puisque le fonctionnaire, par définition, il est stable. Il est assis. Alors, vous voyez, la position, progressivement, va lui donner une manière d'exister qui sera une qualité.
Et le moins montre comment la qualité peut venir